Vous écoutez, on lit pour vous.
L'épouvantail de l'islam radical, un texte d'Isabelle Haché, paru le 2 mai 2025 dans la presse. L'interdiction totale des cellulaires à l'école, ça allait de soi. À peu près tout le monde a applaudi l'annonce du ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, avec raison. Enfin! On se décide à faire éclater la bulle dans laquelle ces appareils isolent nos enfants. Cela dit, une autre interdiction totale à l'école annoncée par le ministre fait pas mal moins consensus. Celle du port de signes religieux par l'ensemble du personnel scolaire. Trois anciennes députées, issues de trois partis différents, ont uni leur voix pour dénoncer la volonté du ministre d'élargir la portée de la loi sur la laïcité de l'État qui interdit le port de signes religieux aux enseignants. Si le projet de loi 94 est adopté, l'interdiction s'appliquera à toutes les personnes qui donnent des services aux élèves, des orthophonistes aux cuisinières, en passant par les éducatrices en service de garde. Françoise David, Québec solidaire, Louise Arel, Parti québécois, et Christine Saint-Pierre, Parti libéral, voient dans ce projet de loi une surenchère qui discrimine les femmes. Elles estiment que le gouvernement profite d'un scandale réel, celui de l'école Bedford, pour ramener des débats dont nous nous serions bien passés. Des débats douloureux qui nous divise et nous déchire depuis la crise des accommodements raisonnables, il y a près de 20 ans. Et c'est reparti pour un tour. Le Québec a-t-il vraiment besoin de s'engueuler une fois de plus à propos du hijab? Il y avait un vrai problème à Bedford, mais le voile n'était pas en cause. Dans cette école de Côte-des-Neiges, les profs qui refusaient d'enseigner certaines matières et de reconnaître les besoins des élèves en difficulté étaient des hommes. Dans les 17 écoles inspectées par la suite, aucun problème de prosélytisme lié au port d'un signe religieux n'a été porté à la connaissance du ministre, rappellent les trois ex-députés. Pas un seul. Pas grave, on donne un nouveau tour de vis à trancher Bernard Drinville. On repart la chicane. Obliger une femme à retirer son voile pour brasser les sauces à la cafétéria de l'école. Personne ne me fera croire qu'il faut légiférer pour ça, qu'il en va du bien de nos enfants. Ce projet de loi ne fait qu'annoncer un retour à des débats houleux pour des raisons idéologiques et sans motif sérieux, comme le soulignent avec justesse les trois anciennes députées. Il faut s'attendre à ce que le discours autour du voile se durcisse à nouveau. Déjà, certains commentateurs le présentent comme un drapeau que l'islam radical utilise pour marquer ses avancées territoriales. Rien de moins. Ah, mais il ne faudrait surtout pas remettre en cause ce discours sans nuance. Il ne faudrait pas critiquer le projet de loi du ministre de l'Éducation au risque de se faire traiter, comme les trois ex-élus, de pauvres naïfs trop occupés par leur croisade pour écouter celles qui nous mettent en garde contre l'islamisation rampante du Québec et qui savent, elles, de quoi elles parlent. C'est une constante dans ce débat. On affirme parler au nom des musulmanes, voilées ou non, sans trop se soucier de savoir de quoi on parle au juste. Les faits, bof. Seules les convictions idéologiques comptent. Et elles sont inébranlables. J'en ai discuté avec le sociologue français Daniel Verba, chercheur émérite à l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux et spécialiste de la laïcité à l'Université Sorbonne-Paris-Nord. Daniel Verba s'intéresse depuis des années au port du voile en France. Il a mené une multitude d'entrevues auprès de Françaises voilées pour comprendre leurs motivations. Il a publié des études savantes à ce sujet. Bref, en voilà un qui sait de quoi il parle. Loin de moi l'idée de défendre le voile, précise-t-il d'emblée. Je ne suis pas un promoteur du voile islamique. Le professeur ne parle pas au nom des musulmanes voilées. Seulement, ils rapportent leurs paroles. À l'idéologie, il répond par l'exploration empirique. Parmi toutes les femmes françaises que j'ai interviewées, dit-il, aucune ne m'a dit porter le voile parce que quelqu'un ou un groupe l'obligeait à le faire. Quand les femmes expriment leur liberté de porter le voile, elles le font en toute autonomie. Évidemment, Danielle Verba n'exclut pas d'avoir pu passer à côté de femmes soumises à une domination phallocratique qui les obligeait à porter un couvre-chef dans l'espace public. Par définition, ces femmes sont plus difficiles d'accès. Mais en France, elles sont certainement très minoritaires, estime le sociologue. Ses enquêtes, comme celle de ses collègues, montre que la vaste majorité des musulmanes françaises qui portent le foulard islamique le font en toute indépendance. Pour des motifs religieux, bien sûr, mais aussi comme un moyen pour les adolescentes de se distinguer, voire de se rebeller contre leurs parents athées. Danielle Verba a aussi noté une espèce de sororité dans le port du hijab. C'est souvent de femme à femme qu'on se décide à porter le voile ou à le garder. On est loin du symbole de la femme soumise, encore plus loin de l'étendard censé marquer les avancées territoriales de l'islam radical. Danielle Verba voit, dans cette façon pour le moins caricaturale de présenter les choses, une construction sociale, politique, idéologique, portée par des courants réactionnaires. On tente de faire croire à un continuum. D'abord, le port du voile, ensuite, le repli identitaire, puis le rejet des valeurs de la société d'accueil, et pour finir, la radicalisation violente. Or, cette mécanique-là n'existe pas, tranche-t-il. Ces corrélations me semblent tout à fait illégitimes. Vous me direz que le voile n'est pas un bout de tissu comme les autres. Que des Iraniennes meurent pour avoir osé marcher dans la rue cheveux au vent. C'est vrai. Mais on ne peut faire fi du contexte. En Iran, un régime théocratique impose aux femmes des rituels que la plupart d'entre elles n'ont pas choisis. En France, comme au Québec, certaines femmes choisissent de porter le hijab parce qu'elles vivent dans une démocratie qui respecte la liberté de conviction religieuse. On change de contexte politique et le voile change de sens, souligne Danielle Verba. En Iran, s'en défaire est un signe d'émancipation. En France, le porter est un signe de liberté. Au Québec, comme en France, des musulmanes exercent leur liberté de porter le voile pour toutes sortes de raisons. Et jusqu'à preuve du contraire, endoctriner les enfants n'en fait pas partie. C'est ça la réalité du terrain, quoi qu'en disent ceux qui agitent l'épouvantail de l'islam radical en faisant mine de savoir de quoi ils parlent. C'était « L'épouvantail de l'islam radical », un texte d'Isabelle Haché, paru le 2 mai 2025 dans La Presse.
Quand le climat fait flamber les prix des denrées, en un coup d'œil, un texte paru le 31 août 2025 dans La Presse. Les scientifiques préviennent que le réchauffement planétaire fera bondir le coût des aliments dans les années à venir. Un bouleversement qui s'observe déjà sur les marchés, avec des hausses marquées aux quatre coins du monde, a constaté une équipe internationale de chercheurs. Source: Environmental Research Letters. Inde. 80%. En Inde, le prix des pommes de terre et des oignons a grimpé d'au moins 80% dans les mois qui ont suivi une importante vague de chaleur en mai 2024. Japon. 48%. Le prix du riz au Japon a augmenté de 48% en septembre 2024, après une vague de chaleur survenue un mois plus tôt. Australie, 300%. Le prix de la laitue en Australie a explosé de 300% à l'été 2022 après des inondations printanières qui ont touché de nombreuses terres agricoles. Italie et Espagne, 50%. Le prix de l'huile d'olive dans l'Union européenne a grimpé de 50% en 2024 après plusieurs épisodes de sécheresse en Italie et en Espagne au cours des deux années précédentes. Corée du Sud, 70%. En Corée du Sud, le prix du chou a augmenté de 70% en septembre 2024 après une intense vague de chaleur. Mexique, 20%. Au Mexique, le prix des fruits et des légumes a augmenté de 20% en janvier 2024, après des épisodes de sécheresse en 2023. Ouest des États-Unis, 80%. Le prix des légumes a cru de 80% en Arizona et en Californie en novembre 2022, après des épisodes de sécheresse ayant touché l'ouest des États-Unis. Ghana et Côte d'Ivoire, 280%. Le prix global du cacao a connu une croissance de 280% en avril 2024, après une vague de chaleur en février au Ghana et en Côte d'Ivoire. C'était « Quand le climat fait flamber les prix des denrées » en un coup d'œil, un texte paru le 31 août 2025 dans la presse.
Un ossuaire militaire de 1760 va demeurer sous clé. Un texte de Dave Noël paru le 18 juillet 2025 dans Le Devoir. L'ossuaire contenant les restes humains de la bataille de Sainte-Foy du 28 avril 1760 va demeurer fermé, a tranché la Commission des champs de bataille nationaux, CCBN. Le coffret en acier retrouvé il y a 2 ans dans la base du Monument des Braves à Québec, lors de travaux de restauration, est un lieu de repos, estime l'organisme fédéral. La CCBN a convenu d'avoir peu d'intérêt à faire ouvrir la boîte, lit-on dans une note interne obtenue par Le Devoir. Pour le paléoanthropologue Robert Larocque, les ossements des soldats tombés sous les balles à un peu plus de 2 kilomètres à l'ouest des remparts de Québec devraient au contraire être l'objet d'une analyse scientifique. Ce sont des témoins biologiques d'un événement d'intérêt majeur pour le Québec, explique le spécialiste en évoquant les fragments de squelettes exhumés d'une fosse commune au milieu du 19e siècle. L'affrontement de Sainte-Foy a opposé les soldats français et les miliciens canadiens du général Lévy aux forces britanniques du brigadier Murray. Ce match revanche de la bataille des Plaines d'Abraham est l'un des combats les plus sanglants de la guerre de la conquête, avec ses quelques 1800 hommes tués ou blessés. En dépit de sa victoire éclatante, Lévy n'a pas réussi à reprendre Québec, la capitale déchue de la Nouvelle-France. Nationalité. Retrouvés du côté français de la ligne de bataille, les ossements des braves ont été attribués aux combattants des deux camps dans le contexte de réconciliation du Canada uni. C'est d'ailleurs ce qui a amené l'ancien leader patriote Louis-Joseph Papineau à bouder la cérémonie de translation des restes en 1854. L'analyse ADN et physico-chimique des ossements permettrait justement de trancher la question épineuse de leur nationalité. En étudiant certains isotopes, on pourrait identifier la provenance des individus, souligne Robert Larocque. Leur analyse serait en outre l'occasion de vérifier l'association qui a été faite entre ces restes et la bataille de Sainte-Foy par François-Xavier Garneau, le premier historien du Canada français. On a estimé qu'il s'agissait d'ossements de soldats parce qu'ils se trouvaient à côté du moulin Dumont, où se sont déroulés les combats les plus acharnés, explique l'historien de la mémoire Patrice Groux. Mais il y a toujours eu ce doute qui persiste encore aujourd'hui. Maintenant qu'on peut vérifier, pourquoi s'en priver? Trauma. L'ossuaire des braves représente un corpus unique permettant de documenter la violence des combats du 18e siècle menés tambour battant en terrain découvert. Il serait intéressant d'analyser les traumas sur les os, observe Robert Larocque. En 2002, le paléoanthropologue a examiné le crâne du général Montcalm qui avait été retiré 10 ans plus tôt du cabinet de curiosité des Ursulines. Son analyse avait permis de constater l'ampleur des traumatismes crâniens subis par le marquis sur les champs de bataille européens dans la décennie précédant sa venue au Canada. À commencer par les entailles laissées par des coups de sabre encaissés à la bien mal nommée bataille de Plaisance de 1746. Larocque avait également noté une dépression circulaire d'un diamètre sur l'os frontal, une marque correspondant à l'impact d'une balle reçue au combat de l'Assiette de 1747. C'est la même situation qui se présente avec le Monument des Braves, explique Robert Larocque en repensant à son tête-à-tête macabre avec Montcalm. Pourquoi ne pas profiter de la mise au jour des ossements des soldats pour en faire l'analyse avant de les remettre dans le monument? Le paléoanthropologue s'étonne de la pudeur de la CCBN envers les fragments de squelettes dont ils ont la garde. « Tout cimetière est un lieu de repos », rappelle-t-il. « Je ne vois pas pourquoi ces restes-là poseraient plus de problèmes qu'un cimetière que l'on découvrirait dans le cadre d'un chantier d'infrastructure. » Lieu de mémoire. Le reliquaire de Sainte-Foy a été inséré dans la base du Monument des Braves en 1855. Il y est demeuré jusqu'en octobre 1970, au moment où la structure imposante a été déplacée de quelques mètres pour élargir le chemin Sainte-Foy. Percuté par un bélier mécanique dans le courant des travaux, le modeste coffret avait alors été vidé dans un sac de poubelle noire, le temps de construire un nouveau boîtier. Une photo publiée dans les pages du Soleil de l'époque nous montre un lot de tibias déposés sur un sol recouvert de feuilles mortes. Les restes humains avaient été remis dans la base du monument reconstruit à quelques mètres de son emplacement d'origine. L'ouverture de l'ossuaire, que la CCBN qualifie erronément de « capsule temporelle », a été envisagée un moment par l'organisme fédéral, révèle la note d'information obtenue par Le Devoir. Des dates ont même été identifiées, dont le 11 novembre, qui coïncide avec le jour du souvenir. Le projet n'est toutefois plus à l'ordre du jour, confirme la CCBN. La restauration en cours du Monument des Braves doit être complétée dans le courant de l'automne 2025 avec le retour de sa colonne de fonte surmontée de la statue de Bellone qui avait été offerte au début des années 1860 par le neveu de l'empereur Napoléon Ier. Une inscription sera ajoutée sur l'ossuaire par précaution afin d'éviter des accidents découlant d'une perte de mémoire institutionnelle, comme celui survenu lors de travaux en octobre 1970. C'était « Un ossuaire militaire de 1760 va demeurer sous clé », un texte de Dave Noël paru le 18 juillet 2025 dans Le Devoir.
Excuses aux violoneux québécois.
Un texte de Philippe Mercure paru le 19 août 2025 dans la presse. Sur scène, Uncle Tom McSwiggin, 90 ans, raconte des blagues entre deux coups d'accordéon. À ses côtés, Andy Doucette joue du violon avec une telle vigueur qu'on pourrait considérer sa performance comme du sport. Michael Pendergast et son fils Shane l'accompagnent respectivement au clavier et à la guitare. Veronica Murray débarque ponctuellement pour marteler la scène de ses souliers à claquettes. Je vous raconte ici l'un des beaux souvenirs ramenés de mes vacances à l'île du Prince-Édouard. Une soirée dans un Kelly. Concert de musique traditionnelle écossaise et irlandaise. Spectacle d'humour dans lequel on raconte des blagues et des légendes. Occasion de socialiser. Un Kelly, c'est un peu tout cela à la fois. Ces soirées conçues pour rappeler les parties de cuisine se perpétuent de génération en génération. À la porte du centre communautaire de la municipalité de Malpec, où nous étions, on avait affiché une note rédigée au crayon feutre. Désolé, complet. L'assistance était formée autant d'enfants qui dansaient et sautaient que de vieillards tapant des mains, sans compter les ados venus passer du bon temps. Et à la pause, il y avait distribution de fraises et de crème glacée. Bref, un sacré party à la fois endiablé et bon enfant. Je suis revenu des Maritimes en me demandant pourquoi on n'avait pas de telles soirées au Québec, pourtant une terre de fêtards, de violoneux et de joueurs de cuillères. Dans la voiture, au retour, ma famille a dû endurer mes envolées sur notre supposée perte de patrimoine. J'ai fini par me calmer et appelé Gilles Pitre, chargé de projet au Conseil québécois du patrimoine vivant. Il m'a poliment fait comprendre que j'étais magistralement dans le champ. Pour avoir côtoyé plusieurs musiciens de l'île du Prince-Édouard, on sait que c'est très dynamique là-bas, mais la perception que c'est moins vivant ici est erronée, selon moi, m'a-t-il lancé. À 16 heures, M. Pitre est lui-même un caller de danse. Vous savez, ces animateurs qui prodiguent des instructions aux danseurs du genre « Changez de côté, vous vous êtes trompé ». Les veillées de danse dans lesquelles il officie sont beaucoup moins anecdotiques que je l'imaginais. Pendant la haute saison, d'octobre à avril, on répertorie de 4 à 7 veillées de danse par semaine au Québec, m'apprend-il. C'est partout. Saint-Casimir, Victoriaville, Saint-Jérôme, Joliette, Gatineau, Ripon, la Gaspésie, c'est très fort en Gaspésie. Un phénomène de région? Pas uniquement. L'organisme Espace Trad organise, par exemple, les Veillées du Plateau, en plein cœur de Montréal. Pour les intéressés, le réseau des Veillées de danse du Québec tient un calendrier des événements partout dans la province. C'est en pleine effervescence, jure M. Pitre, qui dit assister à un regain après une baisse de régime dans les années 1980 et 1990. Lors de ces soirées, les participants exécutent des danses traditionnelles comme des 7 carrés, des quadrilles et des cotillons, au son d'un groupe de 3 à 5 musiciens. Il y a toujours un intermède de gigue, une ronde de gigue où les gens vont montrer leur savoir-faire, explique-t-il. Autre phénomène très dynamique, celui des festivals trad pour musique traditionnelle. Le Conseil québécois du patrimoine vivant en recense pas moins de 22 dans la province de Joliette à Trois-Pistoles, en passant par Montmagny. Cette scène est alimentée par des musiciens qui, malgré la crise du disque, enregistrent une 20aine d'albums de musique traditionnelle chaque année au Québec. Gilles Pitre me rappelle que la disque remet chaque année un prix pour le meilleur album de musique traditionnelle, décerné l'an dernier à Domino de la Bottine Souriante. Un aspect m'intriguait encore. Les musiciens que j'ai entendus à l'île du Prince-Édouard se réclament de leurs racines irlandaises et écossaises, allant jusqu'à jouer des classiques du folklore irlandais comme Molly Maloney. Qu'en est-il des musiciens traditionnels québécois? Leur musique tire-t-elle ses origines de la France? Gilles Pitre s'anime au bout du fil. « Voilà une question très intéressante !» s'exclame-t-il. La musique instrumentale traditionnelle québécoise, avec son accordéon, son violon, son piano et sa guitare, a aussi des origines irlandaises et écossaises, m'apprend-il. Ces communautés sont présentes au Québec depuis longtemps et ont eu une forte influence. Les Québécois d'antan se sont toutefois appropriés ces musiques et les ont fait évoluer. On ne les joue plus comme en Écosse ou en Irlande, dit Gilles Pitre. Les musiciens québécois qui vont faire des festivals là-bas reconnaissent les airs, mais ne les jouent pas de la même façon. Évidemment, les paroles francophones, elles, proviennent de la France. Si on parle de chansons, l'influence est franchement et totalement française. Ça provient de la Bretagne, du Poitou, de la Picardie, de la Normandie, explique M. Pitre. Tout cela s'est métissé pour donner la musique traditionnelle québécoise, unique au monde. La Bolduc est un bon exemple, souligne Gilles Pitre. On sent les influences celtiques dans la musique, mais les mots sont en français. En bref, ça swing pas mal plus que je ne le croyais côté trad au Québec. Une preuve qu'on profite souvent des voyages pour s'ouvrir aux autres cultures en oubliant de regarder ce qui se fait chez nous. À ma décharge, Gilles Pitre admet que la scène québécoise est méconnue et soupçonne l'île du Prince-Édouard de mousser davantage ses quilis auprès des touristes qu'on le fait chez nous pour les veillées de danse. Ça m'apparaît clair et bien dommage. On aurait tout intérêt à mieux connaître ce pan de notre culture, moi le premier, et à le faire découvrir aux visiteurs. Mes excuses à tous les violoneux et calleurs de danse du Québec, donc. Et, si je peux me permettre une suggestion, les fraises et la crème glacée en milieu de soirée, c'est vraiment pas mal. C'était « Mes excuses aux violoneux québécois », un texte de Philippe Mercure paru le 19 août 2025 dans La Presse.